France Musique.
Je savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner.
You're not Rosebud, are you?
What?
Rosebud. And your name is Jennings.
Yes, sir. Goodbye, everybody.
Is it just because her family changed their name from Albrecht? Or do you think it's because all you girls are bitches?
I guess.
Yeah, I think Paige is the same.
Monsieur, pardon. Vous n'avez rien contre la jeunesse.
Hé, hey, moi j'aime bien les vieux.
C'est ça, là.
Did you find what you were looking for?
No, with two shots in his back and one in his stomach. Nobody important, really.
Cinéma Song par Thierry Jousse.
Aujourd'hui, une soirée avec Evgeny et Sacha Galperine. Bonsoir. Après Rob, il y a de cela deux semaines, je reçois ce soir deux autres représentants de la nouvelle génération de la musique de film en France. J'ai nommé les frères Evgeny et Sacha Galperine. Venus de Russie à l'adolescence et depuis installés en France, Evgeny et Sacha Galperine ont ces dernières années peuplé le cinéma populaire français avec des musiques pour des films comme Malavita de Luc Besson ou L'homme qui voulait vivre sa vie et plus récemment La famille Bélier, signé tous deux Éric Lartigot, ce qui ne les a pas empêchés de faire quelques excursions en Chine, en Espagne ou dans le cinéma indépendant américain. Leur style ambitieux, fondé sur un subtil mélange entre l'orchestre et l'électronique, donne aux frères Galperine de grandes perspectives de carrière dans cette discipline complexe qu'est la musique de film. À la fin de cette émission, Charles-Pierre Vallière, dans sa chronique Essentielle BO, rendra hommage à James Horner, grand compositeur américain disparu en début de semaine dans un accident d'avion absurde et tragique. Mais en attendant, mon actualité, c'est d'abord ceci.
Ma non ci sta nessuno. Hai portato un giorno che non ci sta nessuno.
E il martedì le corse non ci stanno. E poi Agnano è molto più bello così, è più poetico. Vieni, Filume, vieni.
Ma proprio così, vuoto vuoto.
Vieni, vieni, vieni a vedere. Vieni. Guarda che bella vista, guarda.
Come si vede bene da quassù?
Due gradini più sotto si mette sempre la Marchesa di Bassano, con un cannocchiale da marina lungo così. Ma che fai? Io per essere felice, ma felice, è proprio qua che vorrei la camera da letto.
Stanno grille dintà l'erba.
Ah, sì.
Che bello quaglio. Ti piacciono i bambini, Tommy? Tommy!
Marcello Mastroianni qui s'endort et qui ronfle en entendant parler Sophia Loren. Et oui, c'était dans un film qui s'appelle Mariage à l'italienne, un film de Vittorio De Sica de 1964, un film qui est ressorti récemment en DVD chez Carlotta, une comédie italienne donc extrêmement réussie, qui était peut-être pas aussi célèbre en France qu'elle l'est en Italie. On connaît mieux Divorce à l'italienne d'ailleurs de Pietro Germi en 1962 et Mariage à l'italienne, voilà, c'était un couple sur 20 ans formé donc par Mastroianni et Sophia Loren qui se retrouvent et en même temps se séparent, voilà, qui ont un certain nombre de problèmes autour du mariage et qui finiront par convoler en juste noces à la fin du film. C'est pas vraiment un scoop. Et la musique, elle est signée Armando Trovajoli, une musique d'inspiration assez napolitaine, comme vous avez pu l'entendre dans cet extrait délicieux, je dirais. Et en tout cas, et ça révèle aussi ce film, outre la qualité des musiques de Armando Trovajoli, aussi le talent, bon, de Mastroianni, mais ça c'est pas vraiment un scoop, mais aussi et surtout peut-être, je dirais, de Sophia Loren. C'est pas un scoop non plus d'ailleurs, mais Sophia Loren est absolument remarquable dans ce film. C'était une grande comédienne et pas simplement une beauté italienne comme on les aime. Voilà. Donc vous pouvez, pour commencer cet été qui s'annonce assez chaud, voir Mariage à l'italienne. Je pense que ça sera ça vous permettra de passer une soirée très divertissante, et pas simplement divertissante, mais également assez profonde, puisque le film joue un peu, voilà, sur les deux tableaux. On connaît mieux De Sica pour les films néo-réalistes comme Le voleur de bicyclette ou Umberto D, par exemple, qui est ressorti il y a pas si longtemps. Mais on peut découvrir, voilà, des facettes différentes de son œuvre, pour celui qui était également un grand acteur, Vittorio De Sica, et un grand cinéaste. Alors, on va être très italien ce soir dans nos référents, enfin, en tout cas, dans notre actualité, essentiellement italien, un petit peu français quand même après. Italien donc avec la parution, là aussi, pas tout à fait récente, enfin, assez récente, mais on va dire pas la semaine dernière, c'était plutôt à la fin du printemps, d'un dictionnaire du cinéma italien aux éditions Nouveau Monde, sous la direction de Mathias Sabourdin, qui est un dictionnaire assez passionnant. Alors d'abord, évidemment, il réunit des noms de réalisateurs. Il n'y a pas d'acteurs dans le dictionnaire, donc ça c'est une chose. Donc il y a les réalisateurs, mais il y a également, et c'est ça qui est presque le plus intéressant dans ce dictionnaire, les scénaristes, les chefs opérateurs et les compositeurs. C'est suffisamment rare pour être noté, c'est pour ça que je voulais m'en faire l'écho dans cette émission. Alors après, on peut discuter à l'infini de la pertinence ou pas, ou du fait qu'on soit d'accord ou pas sur tel et tel des notices sur tel et tel réalisateur, tel et tel scénariste ou autre. Mais en tout cas, c'est un dictionnaire très documenté, très très soutenu, je dirais, au niveau du texte, et avec donc voilà des notices sur des compositeurs assez variés en ce qui concerne les Italiens. Ça va de Mario Nascimbene à Nicola Piovani, en passant bien évidemment par Ennio Morricone. Armando Trovajoli, dont on parlait juste avant, figure bien sûr aussi dans ce dictionnaire. Et puis on y trouve un compositeur que j'aime énormément et dont j'ai déjà eu l'occasion de parler dans cette émission, c'est Piero Piccioni, qu'on va entendre tout de suite, suivi d'un autre compositeur qui lui ne figure pas dans ce dictionnaire. Et c'est bien dommage, il aurait pu y figurer, puisque c'est vraiment un des grands aussi de la musique italienne de cette génération. C'est Piero Umiliani sur deux bandes originales de films assez peu connus, mais qui sont deux friandises comme on les aime dans Cinéma Song. Thank you. de friandises, je vous le disais bien avant de diffuser ces morceaux à l'instant, Piero Umiliani pour un extrait de la bande originale d'un film assez obscur, très obscur même, qui s'appelle Les Isole dell'Amore, l'île de l'amour, un film de Pino De Martino qui n'a pas laissé de grandes traces dans l'histoire du cinéma italien, qui ne figure d'ailleurs pas dans ce dictionnaire du cinéma italien dont nous parlions juste avant, publié, je le rappelle, aux éditions Nouveau Monde, et puis auparavant un film assez obscur aussi, mais un petit peu moins quand même, Scacco alla Regina, échec à la reine de Pasquale Festa de Campanile, avec une musique de Piero Piccioni, c'est la version, enfin, dire le versant un peu à la fois ensoleillé et un peu bossa nova de la musique italienne des années 60-70. C'est toujours un grand plaisir, en tout cas pour moi, mais je pense que ça doit, je suis pas le seul. J'espère que ça l'est aussi pour vous de réécouter ces morceaux qui sont, voilà, qui ont été un peu exhumés au fil des rééditions en CD depuis une vingtaine d'années. En tout cas, ça vaut le coup, voilà, de se procurer cet excellent dictionnaire du cinéma italien dirigé par Mathias Sabourdin avec une préface de Jean Gilly aux éditions Nouveau Monde. On va finir cette séquence d'actualité avec le compositeur italien par excellence, dont on parle régulièrement bien sûr dans Cinémasong, c'est Ennio Morricone, avec deux rééditions de musique importante, on va dire dans les années 70, et deux musiques de films français. Pour ce compositeur italien, on sait qu'il a fait une carrière française non négligeable dans les années 70, et ces deux musiques, c'est celle du Casse et de Peur sur la ville d'Henri Verneuil, deux films d'Henri Verneuil dont on connaît très bien à la fois les films mais surtout les musiques, qui ont été souvent rééditées. Là, elles sont rééditées par très bien rééditées par le label Music Box Records, donc avec des éditions extrêmement complètes, notamment pour Peur sur la ville qui avait parfois fait l'objet de rééditions assez parcellaires avec le thème principal qu'on connaît tous, mais des choses qui manquaient. Et bien voilà, là on a vraiment l'édition la plus complète, la mieux remasterisée aussi, puisque c'est la dernière, donc ça nous permet également, bah voilà, d'écouter ou de réécouter deux extraits de ces deux bandes originales du Casse et de Peur sur la ville, Ennio Morricone.
Thank you.
deux thèmes d'Ennio Morricone parmi voilà des thèmes assez connus dans l'œuvre de Morricone des années 70, notamment à l'instant un extrait de la musique de Peur sur la ville qui s'appelle À l'angle d'une rue de la périphérie, donc qui reprend en partie le thème principal de ce film important et en tout cas pour la musique. Après pour le film lui-même on peut discuter, mais les amateurs de Belmondo évidemment l'aiment. Et auparavant la musique du cast toujours avec Belmondo. D'ailleurs, le cast qui se passe d'ailleurs à Athènes, dont on parle beaucoup en ce moment, bien que ce soit l'adaptation d'un roman de David Goodis, c'était évidemment Belmondo avec Omar Sharif, Nicole Calfon, Robert Hossein, Renato Salvatori qui formaient le casting de ce film, qui n'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais dont la musique est évidemment très culte. La musique d'Ennio Morricone, le thème d'amour qu'on a entendu d'ailleurs, existe dans des versions chantées, notamment celle d'Astro Gilberto, Una Donna che ti ama, qui figure bien évidemment dans le CD et également dans un disque que Ennio Morricone avait commis avec Mireille Mathieu en 1973, je crois. Il existe une version française de ce thème, mais Mireille Mathieu d'ailleurs s'en sort fort bien. Et le disque d'ailleurs de Morricone avec Mireille Mathieu est un disque qui plaît en général aux amateurs de Morricone. En tout cas, je vous le recommande, et pourtant je suis pas le plus grand défenseur de Mireille Mathieu, à quelque antenne que ce soit d'ailleurs. Alors, puisqu'on parle de Morricone, il faut signaler l'initiative du cinéma nantais, le Cinématographe, qui consacre du 24 juin, donc hier, jusqu'au 22 juillet 2015, une rétrospective Ennio Morricone, donc dans ses murs, donc au Cinématographe. Pour les Nantais, je pense que c'est un cinéma assez identifié. Pour ceux qui seront de passage, bah, ils trouveront bien évidemment les références. Le cinéma incite, et donc on pourra y voir de nombreux films, Colorado de Sergio Solima, et bien évidemment les films de Sergio Leone, Frantic de Roman Polanski, Mon nom est personne, Peur sur la ville justement d'Henri Verneuil, Prima della Rivoluzione de Bernardo Bertolucci, La propriété c'est plus le vol de Elio Petri, enfin bref, une sélection de films assez divers qui illustrent bien la complexité et de cette carrière énorme d'Ennio Morricone, dont on aura un bel aperçu. C'est suffisamment rare que il y a peu de salles de cinéma qui font des programmes autour des compositeurs de musique de films, donc ça mérite vraiment d'être souligné, et cette initiative voilà et permet vraiment de rendre justice à ce très grand compositeur qui est Ennio Morricone. Un extrait de la musique d'un film dont on a déjà parlé la semaine dernière comme une sorte de bande-annonce pour cette émission de ce soir. Le film, c'est La Résistance de l'air, le premier long-métrage de Fred Grivois, avec assistant de Jacques Audiard, un film avec Reda Kateb et Ludivine Sagnier, l'histoire d'un champion de tir qui s'improvise, on pourrait dire tueur à gage. Enfin bon, là c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est résumé très rapidement. Et la musique en est signée donc Evgeny Sacha Galperine. L'extrait, ça s'appelle Le Dernier Contrat. Le disque est paru très récemment donc chez Milan et coédité avec Gaumont. Et c'est Evgeny Sacha Galperine sont nos invités ce soir. Enfin, j'avais eu l'occasion de les rencontrer au dernier festival d'Aubagne où ils étaient, où ils donnaient voilà une sorte de leçon de cinéma. Et ils m'ont raconté un peu leur carrière, leur trajectoire qui n'est pas encore extrêmement longue. Mais après Rob, je le disais en début de cette émission, c'est intéressant de recevoir voilà des représentants de la nouvelle génération de la musique de film en France qui voilà produit des nouveaux compositeurs qui d'ailleurs assez rapidement sont également happés par des tâches internationales, comme quoi l'école française, qui a toujours eu des brillants représentants depuis les années 30, continue à produire des compositeurs que d'autres cinématographies nous envient. Alors, on va les retrouver, Evgeny et Sacha Galperine. Alors ils sont d'origine russe, fils d'ailleurs de compositeur, le fils du compositeur Yuli Galperine, donc vraiment baigné dans la musique depuis leur début. Et ça fait un petit moment qu'ils sont installés en France tous les deux. Evgeny est l'aîné, Sacha est le benjamin. C'est Evgeny qui parle d'ailleurs le plus et qui a sans doute une expérience professionnelle un tout petit peu plus importante. En tout cas, ils vont nous parler un peu de la manière dont ils ont découvert le cinéma et la musique, l'un et l'autre, Evgeny et Sacha Galperine.
Musicalement parlant, on a tous les deux une formation classique au départ. Notre papa est compositeur classique et de théâtre, qui était assez renommé en Russie. Donc on a baigné dans la musique très tôt. Comment est-ce que l'envie est venue le concilier avec le cinéma? Je pense que c'est tout simplement par amour du cinéma. Quand j'étais en Russie, en Union soviétique encore, à cette époque-là, comme on avait très peu d'achats de films étrangers, c'était beaucoup de films russes qui étaient diffusés à la télé, souvent des films très intellectuels, Tarkovsky, German, Kolotozov. Donc en fait, ce sont des films qu'on voyait en rentrant de l'école, on comprenait rien, on s'ennuyait parfois, mais on était obligé de les regarder parce qu'il n'y avait pas de choix. Et du coup, ces films, sans qu'on s'en rende compte, ils commençaient par nous habiter, par nous interroger, et par nous attirer. Et en fait, c'était vraiment une rentrée dans le cinéma, dans le plus fort que ce cinéma puisse donner, parce qu'il y avait aussi des films de Bergman, enfin, tous les films vers lesquels on vient normalement plus tard, mais du coup, nous, on les recevait comme ça, frontalement. Et puis aussi, à l'école, ça se passait pas très bien pour moi, parce que on habitait dans des quartiers difficiles, où il y avait beaucoup d'antisémitisme, on a des origines juives. Et du coup, je séchais énormément. Et pour occuper mon temps, j'allais au cinéma. J'ai passé six mois dans les salles de cinéma à sécher l'école. Évidemment, mes parents ne savaient rien jusqu'à un certain moment. Et je pense que l'amour du cinéma est venu comme ça. Et comme il n'a pas été plus fort que celui de la musique, il était juste quelque chose que je voulais associer à la musique. Et à un moment, je me suis dit, mais oui, bien sûr, la musique à l'image, c'est une manière formidable de faire les deux. Et c'est parti comme ça. Et je pense qu'avec Sacha, comme on a grandi quand même dans les mêmes conditions, même si il a fait des détours par le rock et même par les maths, je pense que aussi c'est quelque chose qui s'aimait, cette passion de cinéma, assez tôt. En plus, le fait qu'il y avait plein de films qui étaient inaccessibles en Russie, mais desquels on entendait parler, ça donnait encore plus de soif. On avait encore plus envie de les voir, de les découvrir. Des cassettes circulaient, des VHS circulaient, de mauvaise qualité, avec une traduction vocale, pas des sous-titres, avec un mec qui avait le nez bouché un peu comme moi. C'était mythique à l'époque. Donc en fait, ce côté un peu sportif dans le fait de trouver des éléments interdits ou compliqués de trouver, excitait beaucoup notre curiosité.
êtes russe l'un et l'autre. Comment vous avez abordé, disons, puisque vous travaillez quand même majoritairement dans le cinéma français, même si pas seulement, comment vous avez abordé finalement ce cinéma français que peut-être vous n'aviez pas autant vu quand vous étiez en Russie ou en Union soviétique? Qu'est-ce que c'était votre approche est-ce que vous aviez d'ailleurs une approche du cinéma français ou est-ce que c'est vraiment du coup par coup?
C'est vrai qu'en Russie, le cinéma français a été, en Union soviétique, il était toujours très aimé. Il y avait beaucoup de Français qui étaient... De toute façon, les deux cultures étaient toujours très proches. En tout cas, depuis le 19e siècle, le 18e, le français était parlé par les nobles, les bourgeois. On connaissait le cinéma français populaire, surtout. Les films de Pierre Richard, Le Jouet, les films qui étaient toujours très sociaux. Sous leur masque de comédie, ça racontait toujours des histoires très ancrées dans la vie sociale française. Et les vieux films avec Gérard Philippe. On n'avait pas vraiment une culture de cinéma d'auteur français. Tout ce qui est Truffaut, Godard, Bresson et plein d'autres, tout ça c'est venu beaucoup plus tard. Mais en fait, quand on est arrivé en France, moi j'avais 16 ans, Sacha 11, une très bonne manière d'apprendre le français, c'était de regarder la télé et des films. On s'est donné à cœur joie dans cet exercice. Je pense que pendant les 5 ou 6 premières années, on n'a pas décollé de la télévision. Parce que c'était aussi une manière de découvrir un nouveau monde dans lequel on était, et surtout parler cette langue qu'on ne parlait pas du tout avant de venir ici. Je pense que la culture est venue aussi donc avec ces films, avec la télévision. Et puis, comme on est arrivé très tôt, la culture européenne fait vraiment partie de notre éducation. Sacha encore plus que moi, mais même moi, à 16 ans, le conservatoire, je l'ai fait ici. Mes grandes découvertes de vie artistique, je les ai fait ici. Donc, en fait, la sensibilité qui nous a été donnée dans notre pays à notre naissance, je pense, a marié cette culture très européenne qu'on a fini par avoir en France. Du coup, l'approche de cinéma ici, on n'avait pas du tout l'impression d'approcher un cinéma étranger. On est devenu français, en tout cas, au moins à moitié. Donc on travaillait pour les films qui étaient les films de notre pays. On est un peu schizophrène. Les films russes sont aussi nos films, mais les Français ne l'étaient pas moins. Et je pense que ça s'est fait sans se poser des questions du tout. C'était plus compliqué quand on travaillait pour des films chinois. C'est un peu plus compliqué quand on commence maintenant à travailler pour les films américains. Parce que là, il y a des vraies cultures qu'on connaît beaucoup moins. Qu'on connaît juste par les oreilles et par les yeux, mais pas vraiment physiquement, on n'a pas vécu là-bas. Mais pour les films européens, c'était plus simple, j'ai l'impression.
Ma culture à moi est vraiment à mi-chemin, à cheval, parce que je suis arrivé justement très jeune. Donc je ne sais plus vraiment si je suis plus russe ou français. Donc le cinéma français n'était pas une révolution pour moi, c'était la suite, c'était en même temps, c'était...
D'ailleurs, s'il y a des psychothérapeutes qui peuvent aider Sacha à définir son identité, vous êtes bienvenus.
Ils se sont tous cassés les dents.
on peut parler d'un film qui a été important pour vous, L'homme qui voulait vivre sa vie, avec Romain Duris, de Éric Lartigou. Est-ce que ça a été une expérience, je dirais, fondatrice pour vous, justement dans le cinéma français, ou c'est un film qui a compté pas mal dans votre parcours?
Au niveau du duo, ça a vraiment scellé le tandem, parce que c'était un travail intense, c'était un travail très complémentaire, où chacun a apporté la moitié, sa moitié à lui. Du coup, ça a vraiment été la pierre fondatrice de ce tandem.
Oui, c'est vrai. Aussi, la rencontre du réalisateur, qui s'est révélée être une rencontre très importante pour nous, et humainement, et artistiquement, parce que c'est un réalisateur, Éric Lartigou, avec qui on continue à travailler avec une énorme joie à chaque fois, qui vient de triompher avec la famille Bélier.
Evgeny Galperine.
C'est la musique. Et c'est vrai que pour Éric, L'homme qui voulait vivre sa vie, c'était un film tout à fait particulier. Il allait de la comédie populaire, il allait vers le cinéma d'auteur. C'était une expérience très très importante pour lui, très importante pour nous aussi, parce que tout le monde rêve un peu dans ce métier de concilier le cinéma d'auteur et le cinéma populaire. Et on trouve que cet essai a été très réussi à ce niveau-là, et du coup très intéressant musicalement, parce que on nous a demandé d'apporter une certaine couleur originale et particulière pour préciser l'identité et l'univers du film, mais aussi en même temps faire en sorte que ce soit pas hermétique et que ça puisse être accessible à un public assez large. Donc voilà, c'était un travail très difficile et très intéressant, qui nous a fait du bien aussi parce qu'il était remarqué, la musique était remarquée, les gens en ont parlé. Le film a eu un vrai succès.
C'est la première fois que je voyais mon nom sur des abribus.
Voilà. Sacha était comme un fou. Bon, c'est une émotion particulière pour ce film et pour ce réalisateur, parce que le film était produit par EuropaCorp. Il avait le choix du monde entier pour prendre un compositeur. D'ailleurs, c'était une compétition qui était organisée entre plusieurs compositeurs américains, européens, français. Donc la vision qu'on a proposée est tombée en face de ce que Éric cherchait, et depuis voilà, c'est devenu une vraie collaboration à chaque fois passionnante et à chaque fois très différente, parce que entre Famille Bélier et L'homme qui veut vivre sa vie, ce sont quand même deux univers qui n'ont rien à voir, ni musicalement ni cinématographiquement parlant, et c'est passionnant.
Justement, vous parliez de la famille Bélier, qui est donc une comédie, hein, certes avec des personnages sourds-muets, donc il y a moins de dialogue, on va dire, peut-être que dans un film d'une comédie classique. Mais enfin, on dit que c'est toujours un peu compliqué, enfin que la question de la musique dans une comédie, c'est presque la chose la plus difficile pour un compositeur de musique de film. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, notamment sur cette expérience sur la famille Bélier?
Tous les compositeurs vous diront, la chose la plus difficile à faire, c'est la musique de comédie. Pourquoi? Parce que, en fait, pour faire une musique qui a un ton intéressant, une émotion originale et qui soit en même temps qui souligne l'humour du film et qui soit très fonctionnel, c'est très, très compliqué d'associer tout ça. C'est beaucoup plus facile de travailler pour des films dramatiques où la musique peut s'ouvrir beaucoup plus. Et là, je pense que la difficulté n'était pas seulement la comédie, mais aussi la comédie de sourds. Ça veut dire qu'en fait, des séquences, il y avait des vraies séquences de dialogue sans un seul mot. Au départ, on pensait qu'au contraire, c'était génial parce que ça nous donnerait tellement d'espace sonore qu'on pourrait le remplir à fond. Pas du tout. Parce qu'en fait, on se rendait compte que dès qu'on remplissait totalement cet espace sonore qui, soi-disant, nous était donné, on n'arrivait plus à lire les sous-titres. On n'arrivait plus à regarder les expressions des gens. Donc, du coup, il fallait revenir complètement en arrière et composer avec les expressions des visages, avec les sous-titres. Ce qu'on ne fait jamais, de trouver un rythme qui était vraiment un rythme très propre à ce monde de personnages de sourds.
Et aussi beaucoup laisser sa place au bruit, trouver la correspondance et l'alchimie qui pouvait se faire entre les bruitages, les sons qui sont leur monde à eux et la musique qui allait amener quelque chose de supplémentaire, une deuxième lecture.
Des sons qu'ils émettent sans forcément les entendre. Et puis aussi, Eric nous a vachement accompagnés et même il était le premier à vouloir aller dans cette direction, aussi à ne pas mettre trop de musique. La musique originale devait souligner le côté original de ce film, justement. Le mot original n'était là pas pour rien. La musique de Sardou, l'ouvrir complètement, la rendre accessible. Et il y avait la question de beaucoup de silence, beaucoup de séquences. On les a laissées en silence, justement pour ne pas trahir l'univers aussi dans lequel ces gens vivent. Et aussi pour transcrire cet aspect au public d'une manière véridique et pas à chaque fois qu'il y a du silence, remplir avec la musique, montrer aussi, faire comprendre, transmettre au public dans quel univers sonore ces gens-là vivent et ne pas le cacher, au contraire, être fidèle par rapport à ce monde-là. Donc c'était intéressant justement ce débat continuel, où est-ce qu'on met la musique, où est-ce qu'on ne la met pas, qu'est-ce qu'on peut laisser sans musique parce que c'est parlant justement. C'est une manière de le dire. Et où est-ce qu'il faut aider avec un accompagnement?
Finalement, il y a assez peu de musique comique dans le film. La musique intervient à des endroits où elle va plutôt souligner l'évolution des personnages, leurs émotions, le sens de l'histoire qui avance. Oui. C'est pas vraiment une musique de comédie typique.
La meilleure manière d'aborder une musique de comédie, c'est justement d'éviter une musique comique, parce que normalement, dans une bonne comédie, je pense que c'est le cas dans La Famille Bélier, les moments drôles, ils sont drôles sans la musique. On n'a pas besoin de musique pour les rendre drôles. Parfois, il y a des petites virgules, des petites atmosphères un peu décalées qui aident à préciser l'univers, mais ça marche très bien tout seul. Donc la musique, du coup, elle est plus libre de raconter autre chose, quelque chose qui est plus basé sur l'émotion, qui est plus basé, comme disait Sacha, sur l'évolution, le parcours des personnages, qui est quand même le sujet principal du film.
famille Bélier, un thème des frères Galperine, Evgeny et Sacha, donc de leur prénom, on les a entendus tout au long de cette séquence qui a navigué donc entre plusieurs musiques, et notamment, bon, donc je le disais à l'instant, celle de la famille Bélier, mais également dans un tout autre registre, celle de l'homme qui voulait vivre sa vie, du même Éric Lartigot, un extrait qui s'appelait D'une vie à l'autre et qui était dans une tonalité beaucoup plus dramatique, en tout cas rien à voir avec la musique assez enjouée de la famille Bélier. Auparavant, en propos de musique enjouée, celle du thème du distrait signé Vladimir Kosma, qui est une des influences possibles des frères Galperine, même si elle ne s'entend pas toujours dans toutes les bandes originales qu'ils ont composées. En tout cas, ils ont beaucoup aimé Pierre Richard dans leur jeunesse. Et auparavant, Jean-Sébastien Bach retravaillé de manière électronique par Édouard Artemiev, le compositeur des films de Tarkovsky. C'était pour Solaris, en l'occurrence, Listen to Bach, un extrait donc de cette bande originale assez somptueuse d'un film de Tarkovsky, donc 1970, de Tarkovsky à Pierre Richard. Voilà l'univers dans lequel les frères Galperine ont pu naviguer pendant leurs années de formation. On va les retrouver, les frères Galperine, pour une deuxième salve de questions-réponses, et notamment il sera question de Luc Besson, également de l'électronique, puisque Evgeny Galperine notamment a eu une formation d'électroacoustique assez sérieuse, qu'on peut entendre d'ailleurs dans des effets comme ça, dont il parsème ses musiques. On les retrouve tout de suite, Evgeny et Sacha Galperine.
France Musique.
Vous avez mentionné EuropaCorp tout à l'heure comme producteur de l'homme qui voulait vivre sa vie. Donc vous avez travaillé avec Luc Besson également, du coup, sur Malavita, qui lui était plutôt habitué à travailler avec Eric Serra, on va dire. Comment s'est passée cette expérience? Parce que Besson a plutôt la réputation d'être quelqu'un d'assez, qui sait ce qu'il veut, voire un peu autoritaire. Donc je sais pas comment vous avez vécu cette expérience sur un film qui était plutôt un polar, en l'occurrence.
Oui, tout à fait, polar comédie. C'est justement l'originalité du film, c'est une sorte de polar comédie qui joue sur deux plans. Effectivement, c'est quelqu'un qui a des convictions très fortes. Donc professionnellement, c'était extrêmement agréable. On m'avait dit, avant de commencer à travailler avec lui, Evgeny, tu verras, Luc n'est pas facile, Luc est comme ci, Luc est comme ça, mais par contre, quand il va te dire qu'il aime une séquence, cet avis ne changera jamais. Parce que c'est vrai qu'un réalisateur a toujours droit, et c'est même parfois indispensable, de pouvoir rectifier des choses, même qu'il a approuvé avant. On arrive à la fin du film, il se rend compte qu'il faut changer un peu la couleur, la séquence, la musique, d'un endroit ou l'autre. Avec Besson, c'est le contraire. Effectivement, ça se confirmait. Quand on dit « c'est bien », ça ne changera jamais. Donc du coup, il y a un confort de travail incroyable, parce que ça nous permet de construire la palette sonore et la forme musicale sur le film en toute sécurité, en sachant que les choses qui sont approuvées, c'est des vrais piliers. Alors que parfois, on fait une construction qui est complètement remise en question et après qui doit être sauvée, rafistolée, parce que tout d'un coup, on fait des changements. Et, bon, évidemment, notre métier, c'est d'arriver à faire en sorte que ça ne se voit pas, mais en tout cas, c'est un vrai... C'est un vrai travail de prise de tête parfois au dernier moment. Donc ça, c'était très agréable. Après, au niveau de personnalité, c'est quelqu'un de avec qui il faut, je pense, tout simplement très vite montrer, définir les rapports qu'on voudrait avoir. Parce que c'est quelqu'un qui a une autorité très naturelle et qui peut prendre facilement, complètement vampiriser la relation et soumettre des gens. Vraiment, à partir du moment où on montre les limites... De relations, de rapports, il les comprend très bien, et ça s'est très bien passé, qu'on s'est un tout petit peu comme ça heurté au début, où j'étais pris d'envie de claquer la porte, et après en fait, ça correspondait, il faut dire qu'à un moment où il a cassé sa jambe, et il m'avait prévenu. Non, c'était pas moi, je pense que j'aurais pas pu. Il a fait trop de films de kung-fu pour que je puisse l'affronter. Mais il avait prévenu qu'il sera beaucoup plus facile, le plâtre sera enlevé. Il avait aussi raison là-dessus. En fait, c'est quelqu'un qui peut être extrêmement sympathique, intéressant, charmant. Et enrichissant aussi, parce qu'il rentre dans les détails musicaux que je ne soupçonnais pas. Je pense que le fait qu'il a travaillé beaucoup avec Serra et qu'il a beaucoup été dans son studio, qu'il a mis vraiment les mains dans le cambouis, du coup il parlait des techniques de jeu, pas seulement des instruments, mais des techniques de jeu, de la manière dont on jouait, il rentrait vraiment dans les détails que je n'aurais jamais soupçonné qu'il connaisse. Et c'était vraiment très précis, presque à chaque fois extrêmement pertinent. Voilà. Après, il faut dire aussi qu'on est avec Enseignement de genre. C'est un polar, comme on vous a dit, une comédie. Donc, ce n'était pas du tout, comme dans L'homme qui voulait vivre sa vie ou dans d'autres films qu'on a fait, la question de développer un style, une couleur particulière. C'était sur les rails. Il y avait des musiques de référence, il y avait très peu de temps pour les faire. Donc, il fallait faire la musique la plus fun, efficace, fraîche, qui va aider le film à percuter encore plus. Et c'est tout. Donc, voilà. C'était aussi un travail qui était très, très, très réglé. Chez lui, tout est vraiment dirigé. En fait, il a une vision très précise, donc il n'y a pas de place pour les doutes.
Le lien entre l'électronique qui quand même est assez dominant ou en tout cas très présent dans la musique aujourd'hui pour le cinéma et disons l'orchestre ou en tout cas les instruments acoustiques ou électriques d'ailleurs, mais enfin voilà, comment voyez cette répartition dans votre travail entre tous ces éléments là?
Chacun de nous a déjà sa propre formation qui est un peu différente. Evgeny a fait beaucoup d'études d'orchestration, il sait faire beaucoup d'autres choses aussi, mais c'est voilà, quand il faut cette patte-là, on se repose sur ces énormes acquis. Moi, je suis plutôt autodidacte en tant que compositeur, même si j'ai fait beaucoup de musique classique en tant qu'instrumentiste. Du coup, tout ce qui est rock ou électronique, ça sera un peu plus moi, en tout cas plus naturellement. Et puis voilà, on se rejoint aussi, chacun sait faire un peu ce que fait l'autre. Chacun a ses particularités, ses affinités. Et après, c'est selon le film.
l'idée, c'est évidemment la richesse sonore de timbre qu'on nous propose aujourd'hui, la musique électronique, ou en tout cas tout ce qui est lié à la musique sur l'ordinateur, parce que parfois c'est de son acoustique qu'on travaille sur l'ordinateur. C'est là que s'arrête le mot électronique. Mais c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Moi, je suis passé aussi par le stade où, pendant 3 ans, j'ai fait de la musique électroacoustique avec un excellent compositeur et professeur qui s'appelait Michel Sbar. Un univers de la musique concrète, un univers de sonore, aujourd'hui, je pense que c'est un peu inévitable. Pas parce que c'est à la mode, mais parce que c'est un univers extrêmement riche. Et pourquoi s'en détacher? Je ne vois aucune raison. Sauf si la couleur du film ne le démonte pas. Mais c'est vrai que, comme à chaque fois on essaie avec Sacha de changer, de ne pas faire la même chose, de changer de genre, même d'approche, du coup, à chaque fois on décide, est-ce qu'on fait le film avec quelques instruments seulement, une musique très minimaliste, répétitive, est-ce que si on met l'électronique, c'est pour faire quoi, c'est pour dire quoi? Par exemple, le dernier film qu'on a fait, qui est en salle en ce moment, qui est le film de Alix Delaporte, Le dernier coup de marteau, c'est un film avec un garçon de 16 ans qui vit dans les Landes, dans un mobile home avec sa mère, et qui n'est pas du tout sophistiqué, et il était hors de question d'utiliser des éléments électroniques, c'était au contraire plus vers le folk, vers le rock, pop rock.
Organique.
Plus organique. Donc c'est juste une palette de couleurs qu'on essaie d'avoir la plus large possible, tout en la maîtrisant, pas jouer avec, juste un petit peu toucher à tout, mais plutôt voilà, utiliser des outils qu'on maîtrise, et pouvoir se donner le plaisir de fabriquer ce puzzle de couleurs à chaque film, avec les éléments qu'on peut piocher là et là. Si le film doit être purement orchestral, et ben c'est purement orchestral. Si il y a moyen d'insérer, de faire des mélanges avec les sons électroniques ou des sons concrets qui apportent des univers plus modernes, c'est en général avec beaucoup de naturel qu'on va vers ça, parce que voilà, aujourd'hui, je pense s'en passer, c'est un peu dommage, parce que il y a tellement de choses à exploiter là-dedans, tellement de mélanges absolument incongrus, inattendus, où un son mis à côté de l'autre provoque une vraie naissance de quelque chose de troisième, plus grand. Donc voilà, c'est un peu de l'alchimie qui nous intéresse.
Thank you.
Who I Am, bonne question, mais c'est surtout le titre de la musique que vous venez d'entendre, un extrait de la bande originale de Eva, un film de science-fiction franco-espagnol signé Quique Mayo, sorti en 2012 en France, dont la musique était signée donc par Evgeny et Sacha Galperine, avec un certain nombre d'éléments électroniques, mais également de l'orchestre. Et on a écouté donc bien sûr la suite de l'entretien avec Evgeny et Sacha Galperine, mais également un morceau extrait de la bande originale de Malavita de Luc Besson, Bad Guys in Town. Voilà, donc c'est un des fleurons parmi d'autres de la trajectoire de ces deux frères. C'est rare d'ailleurs les frères qui font de la musique. On en connaît au cinéma un certain nombre, les frères Cohen, les frères Taviani notamment, mais les frères Galperine en musique de film ont pris également une place non négligeable. Alors, on les retrouve pour une dernière série autour du cinéma américain et puis de leur panthéon un peu de compositeurs du passé, mais également du présent, mais d'abord le cinéma américain par Evgeny et Sacha Galperine.
Le cinéma américain nous intéresse pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a de très bons films qui se font là-bas, et on a envie de faire de la musique pour de très bons films. Peu importe s'ils sont américains, français, les bons films sont rares, donc c'est bien de pouvoir chercher partout, en tout cas être appelé aussi pour de plusieurs pays comme ça. Pareil, la deuxième raison, c'est que ça fait partie de nos références et de nos amours du cinéma. Nous, par exemple, je pense qu'on est plus intéressé par le cinéma indépendant américain, plus de cinéma auteur, ou qui est à la frontière de deux. On est aussi très fan de cinéma commercial américain, des blockbusters, etc. Mais je pense que musicalement, c'est peut-être quelque chose qui nous intéresse un peu moins. Ils font très bien. Et nous aussi, on est quand même, on essaie d'aller là où on peut apporter quelque chose. On a l'ambition, en tout cas, de penser qu'on peut apporter quelque chose de personnel. Donc, en fait, il faut dire que les États-Unis, ça s'est fait par hasard, parce qu'ils sont très curieux de la musique de film. Parfois plus curieux que les réalisateurs en France, parce qu'ils ont une très grosse culture de musique de cinéma. Après L'homme qui voulait vivre sa vie, on a commencé à être appelé par des gens. Il y a des choses qui ont abouti. Il y a Madame Bovary qui va sortir bientôt. Il y aura un autre film d'une réalisatrice qui s'appelle Courtney Hunt, qui a fait Frozen River, un film qui a gagné Sundance, qui était très populaire en France, avec Keanu Reeves. Donc, le film s'appelle The Whole Truth, Toute la vérité, qui sortira cette année en France aussi. Il y a eu une participation à Hunger Games, qui n'est pas du tout un cinéma indépendant américain, c'est un énorme cinéma de studio, mais sur lequel on est arrivé purement grâce à la monteuse Juliette Wilfling, qui est la monteuse notamment de Jacques Audiard, et qu'on a eu la chance de rencontrer sur L'homme qui voulait vivre sa vie, qui, en plus de devenir une amie, en fait, c'est quelqu'un qui apprécie notre travail, et qui parfois l'utilise en montant des films comme musique temporaire, et parfois ça plaît au réalisateur, ils veulent la garder. C'était le cas de Hunger Games. Donc tout d'un coup, on s'est retrouvé sur cette énorme machine, même si c'était pour 12 séquences seulement. Donc c'était agréable. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte que des superviseurs de musique là-bas ou des monteurs là-bas aiment bien utiliser notre musique comme musique temporaire. Du coup, parfois, ça donne envie au réalisateur de nous appeler. Donc c'est que les premiers pas, c'est tout le tout début, le commencement. Mais voilà, il y aura deux films qui vont sortir cette année et on espère continuer plus tard. En dehors du plaisir, un peu d'ego, de se dire voilà, on fait des films américains, c'est super et tout. Ils sont intéressés par ce qu'on fait. Je pense qu'il y a vraiment un plaisir de cinéphile. En fait, on adore. Il y a vraiment 2-3 films par an qui sortent. On se dit on aimerait tellement avoir fait la musique pour ces films-là. Donc du coup, c'est vraiment l'envie première, c'est de se dire, peut-être un jour, déjà maintenant, on commence, et peut-être qu'on va pouvoir continuer à faire des films qui nous plaisent là-bas, et de concilier ce travail avec le travail en France. Voilà, on verra, c'est pas la mission première, mais c'est enthousiasmant.
Oui, en tout cas, chaque pays a sa propre esthétique, sa culture du cinéma, ce qui fait que des films qu'on peut faire là-bas, on ne les trouvera pas ici, donc c'est de nouvelles. C'est un travail différent, c'est de nouvelles couleurs, c'est. Pour nous, c'est intéressant de varier.
Est-ce qu'il y a des compositeurs dans l'histoire, alors ça, principalement de musique de film, mais j'imagine que vous ne vous intéressez pas qu'à la musique de film, qui vous ont marqué, qui continuent à être très présents, ou des compositeurs contemporains d'ailleurs, de musique de film notamment, dont vous vous sentez, on va dire, assez proche?
Je pense que nos dieux, c'est plutôt les anciens, c'est la grande époque des années 60, 70... John Barry, Morricone, Herman.
Oui, disons que on aime bien quand la musique de film, quand les compositeurs de musique de film, en plus d'illustrer les images ou accompagner, apportent un sens, en fait, que la musique est porteur d'énergie et de sens, que la musique raconte quand même une histoire. Évidemment que c'est au service du film, mais je pense que justement parce que c'est au service du film, ça le sert surtout quand ça... quand il y a un réel apport en plus juste de décoration. Et c'est vrai que dans les années 60, quand on passe au Morricone, à Herman, à Barry, à Goldsmith, il y avait le rôle qui était donné à la musique était important, et puis aussi ces compositeurs, c'était des vrais compositeurs. Il y avait un vrai univers, une vraie force, une vraie énergie que la musique transmettait, qui remplissait formidablement le puzzle du film. Aujourd'hui, on est assez admiratif des gens qui travaillent dans ce sens-là, même si parfois des musiques très efficaces sont très agréables, mais c'est vrai que souvent les musiques qui sont faites par des gens qui viennent d'univers de rock, comme Nick Cave et Bad Seeds, qui ont fait Assassinat de Jesse James, ou comme le mec de Radiohead, le guitariste de Radiohead, qui a fait The Very Blood, Greenwood, ou Cliff Martinez, qui est le batteur de... Voilà, ces gens-là, ce qui est intéressant chez eux, c'est qu'ils n'ont pas le défaut d'avoir trop de références de musique de film. Et deuxièmement, ils viennent originellement d'un univers dans lequel ils ont fait de la musique libre, donc la musique qui devait nécessairement raconter quelque chose. Nous, au départ, on n'était pas des rockers. En fait, Sacha, si, moi, non, mais on vient de musique quand même libre, au départ, qui devait aussi se suffire à elle-même. Donc, l'envie première, c'est l'envie de la musique, et après, c'est l'envie de mettre la musique au service du film. Mais quand la musique est juste décorative, ça peut tout à fait remplir son rôle, pourquoi pas, mais c'est vrai que quand elle raconte une histoire, quand elle est porteur vraiment d'une forte émotion et énergie, on trouve que c'est toujours plus intéressant et que du coup, c'est ça qui aujourd'hui fait la différence. Parce que tout d'un coup, il y a un univers sonore qui marque. Parce qu'aujourd'hui, on est plus marqué par des univers sonores et par l'énergie que la musique apporte que des mélodies. L'époque de mélodies est momentanément, certainement, parce que tout est momentané, révolue. C'est beaucoup trop romantique, trop lyrique pour le style du cinéma aujourd'hui, pour notre époque, qui va vers le réalisme, vers quelque chose de plus dur, plus sombre, plus minimaliste. Donc du coup, si en plus d'être coupé des mélodies, la musique n'a pas une vraie énergie, une atmosphère qui apporte un univers, alors il ne reste pas grand-chose. Et du coup, ça devient très interchangeable. Du coup, voilà, c'est pas très intéressant. Thank you.
un extrait de la musique où Nick Cave et Warren Ellis avaient composé pour le film, dont un film dont le titre est vraiment un rallonge, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. Je me souviens plus si, je crois que le film avait, le titre avait été traduit à peu près, enfin, littéralement. Donc, c'était une musique donc signée Nick Cave et Warren Ellis, donc, des compositeurs que Evgeny et Sacha Galperine apprécient parmi d'autres contemporains comme Johnny Greenwood, qui nous sont cités, et puis évidemment quelques anciens célèbres, bien sûr. Alors, on a écouté également, en ce qui concerne la musique, en tout cas, un extrait de la musique d'un film qui n'est pas encore sorti en France, mais qui devrait sortir dans quelques mois. Le film Madame Bovary, nouvelle version de Madame Bovary, signée par une réalisatrice franco-américaine, Sophie Barthès, mais c'est un film néanmoins américain, indépendant américain, avec Mia Wasikowska notamment et Paul Giamatti. Il est sorti aux États-Unis le 12 juin 2015, donc on devrait le voir dans quelques temps. Je ne sais combienième version de Madame Bovary, il y en a déjà quelques-unes avant, on jugera sur pièce, mais la musique en tout cas est intéressante. Et c'était donc Evgeny et Sacha Galperine qui étaient nos invités pour cette avant-dernière émission de Cinéma Song. Alors maintenant, bien sûr, c'est l'heure de la chronique de Charles-Pierre Vallière, Essentiel BO, qui va nous parler, qui va rendre hommage à ce grand compositeur disparu en début de semaine, je le disais en début de cette émission, James Horner. Et avant de lui passer la parole, je vais faire une petite annonce justement pour ceux qui auraient envie d'écouter la musique de James Horner en live. Bien justement, une occasion se présente puisque Titanic, le fameux Titanic, sera en ciné-concert au Palais des Congrès de Paris les 26, 27 et 28 juin 2015, donc très bientôt. Et ce sera l'occasion de revoir le film, et bien sûr avec les dialogues, mais sur un écran géant, mais avec la musique jouée en live. Donc ça se fait de plus en plus et ça marche. Le public vient nombreux en général. Donc voilà, une façon également de rendre hommage à James Horner. Mais je passe la parole à Charles-Pierre Vallière. Bonsoir Charles-Pierre.
Bonsoir Thierry.
Dites, oh, tu aimes ça la musique ?
La musique ? Ah oui, j'aime ça, surtout après avoir déjeuné.
Bonsoir à toutes et à tous. Oui, c'est une bien triste nouvelle que nous avons appris cette semaine, puisque le compositeur James Horner donc s'est crashé avec son avion non loin de Santa Barbara le 22 juin dernier. Il avait 61 ans. Alors c'était un pilote d'avion expérimenté et surtout donc on lui doit les bandes originales des films hollywoodiens les plus emblématiques des 30 dernières années, à commencer par celle que l'on entend, Thierry, effectivement la musique de Titanic, qui était sortie en 1998, pour laquelle il avait reçu justement l'Oscar de la meilleure musique, mais également de la meilleure chanson pour My Heart Will Go On, qui était interprétée par Céline Dion, on s'en souvient. Alors, ses plus grands succès à travers le monde, James Horner les a obtenus avec les films de James Cameron, et puisque justement avec lui, il a fait alors Titanic, mais également Avatar et Alien le Retour, qui était Aliens, donc en 1986. Aliens, qui était le titre anglais. Alors Horner, il faut le savoir, a commencé le piano très jeune, hein, il avait 5 ans, et ensuite, donc, il a appris vraiment à composer. Il est passé par l'université, l'UCLA, la fameuse donc université de Californie, Los Angeles. Il a étudié la composition avec Paul Sciarra, qui était un compositeur qui faisait beaucoup de musique télé, notamment la série Manimal, peut-être vous vous en souvenez. Et donc Horner a d'abord enseigné la théorie musicale avant justement de se lancer dans la musique de film, influencé par Jerry Goldsmith en particulier. Alors donc je citais les films de James Cameron, mais presque tous tout le monde, je devrais peut-être dire presque sur toute la planète, a entendu peut-être une musique de James Horner, tant il a composé justement pour ses films à grand spectacle hollywoodien. Alors Star Trek 2, La Colère de Khan, Willow, Chérie, j'ai rétréci les gosses, 48 heures de plus, Cœur de tonnerre, L'Affaire Pélican, Jeu de guerre, Braveheart, Jumanji, Jade, Apollo 13, 3, etc., etc. Donc vous l'aurez compris, c'était vraiment un pilier de la bande originale à Hollywood. Il s'est illustré dans un genre qui est celui de l'électro-orchestral, seulement il était un peu plus électro. Enfin, il était un peu plus orchestral que électro, à l'inverse justement de son concurrent en quelque sorte, qui était Hans Zimmer. Et James Horner, lui, avait quand même plusieurs facettes dans sa composition. C'était vraiment un bon mélodiste. Il n'hésitait pas à exploiter cette facilité pour ses bandes originales. Il était souvent inspiré par des musiques folkloriques. On l'entend justement, ce côté balade irlandaise dans la musique de Braveheart, de Titanic, de Willow. Parfois, c'était un peu hispanique, c'était pour le Masque de Zorro. Et puis l'autre facette, c'est bien, c'était un brillant orchestrateur. Il excellait vraiment dans les variations d'intensité et de dynamique. Il savait vraiment faire sonner l'orchestre. Voilà Thierry, c'était alors deux extraits hein, de deux bandes originales différentes qu'on a entendues. Il y a eu un petit mixage fait par notre réalisateur Bruno Rioux-Maillard. Donc on a entendu d'abord un extrait de Aliens avec ce grand crescendo vraiment magnifique qui est parfois joué en concert d'ailleurs. Et puis de l'autre côté, un extrait de la bande originale de The Amazing Spider-Man de Mark Webb, donc composé encore une fois par James Horner, cette musique qui est justement... Alors bon, il a fait 150 musiques de films, hein, James Horner un peu plus même d'ailleurs. On entend vraiment ce côté très talentueux hein, dans l'orchestration, mais en plus donc il flirtait parfois avec la tonalité, c'est ce qu'on a entendu dans cet extrait là. Et puis donc ce qui se passe, c'est que les contempteurs vraiment reprochaient à James Horner souvent de toujours faire la même bande originale. C'est en fait assez mal de connaître, parce que alors, certes il y a des motifs mélodiques qui reviennent dans ces bandes originales chez Horner, mais tout au long de sa carrière. Alors oui, il y a quand on écoute par exemple une bande originale comme celle de Wolfen en 1981 de Michael Wadley, on retrouve des éléments à la fois dans la bande originale d'Aliens, mais aussi beaucoup plus tard dans Avatar. Il y a des ressemblances thématiques, mais on ne peut pas dire que ce soit vrai, enfin que ce ne soit pas vrai pour d'autres compositeurs. Ennio Morricone, dont vous avez passé des extraits, Thierry, lui aussi, c'est pareil tout au long de sa carrière. On retrouve des éléments comme ça qui sont assez semblables. C'est vrai aussi pour des compositeurs comme Trent Reznor plus récemment. Donc Horner était aussi coincé entre les producteurs et les réalisateurs. Il a su donc dans cette grosse machine hollywoodienne se frayer une place, se trouver une place et plaire aussi à ses producteurs. Mais Horner avait vraiment des orchestrations assez variées quand il en avait l'occasion, en fait, quand il avait l'occasion de s'exprimer librement. On l'entend davantage justement là dans cet extrait qu'on écoute, qui est la musique du Nom de la Rose de Jean-Jacques Hano, avec qui il avait travaillé à 4 reprises, donc pour le Nom de la Rose, Stalingrad, L'Or Noir ou Le Dernier Loup. La bande originale était sortie sous le nom de Wolf Totem. Il utilisait beaucoup les pastiches. Hein, on entend là imitation de musique bénédictine, utilisation des chœurs aussi parfois. Il aimait beaucoup faire ça. Et puis, donc, à certains moments, un peu plus tôt dans sa carrière, dans les années 80, eh bien, il utilisait aussi des instruments un peu plus insolites, comme le steel pan. Il aimait bien ça, il était aussi beaucoup plus électro. Et justement, alors il y avait un côté à la fois caribéen et en même temps années 80. Ça, c'est pour tous les fans, enfin, c'est une sorte de souvenir pour tous les gars qui étaient jeunes dans les années 80 comme moi, enfin, très jeunes, et qui ont regardé Commando avec Arnold Schwarzenegger. C'était un souvenir, donc la bande originale de Commando, composée par James Horner, donc en 1986. Alors, James Horner était prévu pour Avatar 2, je sais pas si on l'entendra, mais au moins on l'entendra dans Rage au ventre d'Antoine Fuqua, le 22 juillet 2015, donc qui va sortir. Et on regrettera bien ce grand compositeur hollywoodien.
Merci beaucoup Charles-Pierre, et on se retrouvera la semaine prochaine pour une émission consacrée, la dernière, à un grand du cinéma américain, William Friedkin, donc qui parlera beaucoup musique donc dans cette émission bien évidemment. Alors ce soir j'étais en compagnie de Dorothée Goll, Annick Champagne, Charles Barjou, Alexandre Billard était à la technique et l'incomparable Bruno Riumaya réalisait cette émission. Je vous laisse en compagnie d'Anne Montaron et de son à la brevet. Bonsoir Anne.